Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Gérald Lucas. Ça fait un bail qu'on ne s'était pas vu avec Gérald. Et il nous vient avec un nouveau bébé dans le ventre de la déesse. C'est un roman. Alors Gérald, bonjour. Qu'est-ce qui vous a imprégné pour écrire déjà le premier mot, la première ligne pour ce nouvel ouvrage?
Alors c'est assez particulier parce que je suis parti sur une première histoire. Histoire de quelqu'un qui se retrouve dans un bar, qui écoute de la musique, qui est devant un verre, qui est tout seul. Et puis, à un moment donné, cette musique le fait s'envoler un peu plus loin. Et il se rappelle que la seule fois où il a ressenti une telle émotion, c'était il y a déjà très longtemps et très loin d'ici. C'était en Himalaya, devant une montagne qui s'appelle le Yunchuli.
Donc une histoire qui invite au dépaysement total.
Là, pour le coup, c'est vraiment le dépaysement total. Alors, c'est un roman, mais qui est en grande partie autobiographique, puisqu'en fait, tout ce qui se passe sur place, puisqu'on va petit à petit atterrir au camp de base de l'Annapurna, tout ce qui se passe sur place au camp de base est réel. Donc c'était une expédition, la première expédition que j'ai eu l'honneur de faire avec Jean-Christophe Lafaille.
C'est un déclic chez vous, on a pu remarquer dans vos précédents romans. C'est les choses de la vie qui font qu'il y a un déclic qui fait que progressivement vous écrivez des gestes anodins, comme vous le citiez d'ailleurs, boire un café à la terrasse d'un bar, et ensuite de là naît une histoire. Je ne me trompe pas, c'est ça le déclic chez vous?
Oui, c'est tout à fait ça, mais je crois qu'on ne parle jamais aussi bien que de ce qu'on connaît. Et donc moi, mon métier de photographe, les voyages que j'ai pu faire, et puis c'est vrai que je suis un grand acteur de la vie. J'essaye de prendre tout ce qui vient et de me dire que, ben voilà, que c'est un réel bonheur, qu'il n'est peut-être pas si loin que ça à aller cueillir ce bonheur, qui dans les tout petits gestes de tous les jours, les aventures qu'on peut vivre à la porte de chez soi, y compris à l'intérieur de chez soi, avec ses proches, ses enfants, sa femme, sa famille, ses amis, bien sûr. Et tout ça est une matière très, à la fois importante et très et opulente. Il y a vraiment plein de choses à dire.
Ce sont les bases, comme on dit. Je ne vais pas vous demander ce que vous préférez entre écrire et photographier, mais par contre, je vais vous demander, est-ce que la photographie, par exemple, vous inspire pour l'écriture? Est-ce que ces deux exercices s'alimentent et l'un et l'autre?
Oui, totalement. Totalement. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure, mais je me suis rendu compte aussi que j'aimais beaucoup, par exemple, lire certains écrivains qui, comme on a l'habitude de dire, sont des écrivains qui ont une écriture très photographique, c'est-à-dire qu'il y a, dès qu'une phrase est posée, on a vraiment le sentiment de voir la chose. Je pense à Giono, je pense à Jack London, bon, des gens comme ça qui sont très, très visuels. Comme une musique peut être visuelle, comme, je sais pas, moi qui... Donc, il est présent d'ailleurs dans le livre, le jazz. J'aime beaucoup le jazz, et le jazz est une musique visuelle. C'est une musique très agréable à entendre, mais quand on peut la voir en même temps, c'est quelque chose de particulier, parce qu'il se passe vraiment quelque chose entre le musicien et son instrument. Donc, effectivement, l'image et l'écrit, bon, il faut se rappeler que photographier, ça veut dire écrire avec la lumière. Donc, de l'écriture avec la lumière à l'écriture avec une plume ou avec un ordinateur, il n'y a qu'un pas, quoi.
Il n'y a qu'un pas. Comment avez-vous travaillé? Est-ce une longue maturation ou vous l'avez écrit d'un seul trait? Comment ça se passe chez vous, l'inspiration?
Alors pour celui-ci, c'est très particulier, puisqu'en fait, je vais suivre le héros du roman, enfin le principal protagoniste, on va dire, qui à un moment donné va ouvrir une pochette qu'il n'a plus ouverte depuis 20 ans, et ce que j'ai fait moi aussi, c'est-à-dire des écrits épistolaires que j'avais écrits pendant mon séjour au camp de base de l'Annapurna, c'est-à-dire pendant 6 semaines. Donc une cinquantaine de pages écrites avec une écriture des pattes de mouche sur des petits carreaux presque illisibles, mais que j'ai réussi à déchiffrer. Et pendant un an, je me suis retrouvé tous les matins, pratiquement tous les matins, dans un café en train de déchiffrer et écrire. Et donc du coup, me retrouver à ce camp de base. Alors avec la grande surprise d'y ressentir tout ce que j'ai pu ressentir, d'y retrouver tout ce que j'avais vu, entendu, toutes les émotions que j'avais pu partager avec les différentes personnes qui étaient présentes sur place, les Sherpas, le guide, Jean-Christophe bien évidemment, l'équipe télé qui nous a rejoints pendant une semaine, et tout ça est remonté à la surface comme si c'était hier, alors qu'il y a 20 ans de ça.
Quand vous êtes dans cette phase de décryptage des cris, est-ce qu'il vous arrive de revenir sur l'émotion première pour, comment dire, enjoliver peut-être les écrits, ou alors vous gardez l'émotion telle qu'elle au moment donné, au moment précis ?
Alors, c'est pas pour rien, c'est une bonne question, mais c'est pas pour rien que j'en ai fait un roman. J'aurais pu très bien l'appeler récit, sauf qu'avec le récit, je me serais senti obligé de ne pas tricher et de mettre exactement ce qui avait été fait, les mots qui avaient été dits, les musiques qui avaient été écoutées, la littérature qui avait été lue à cet endroit. Et là, je me suis laissé un petit peu de marge pour pouvoir aller plus loin dans ce que j'ai pu ressentir en étant sur place. Évidemment, 20 ans après, il y a une continuité qui s'est opérée. Je reste persuadé qu'il y a eu un avant à Annapurna et un après à Annapurna. Une expérience comme celle-ci est très constructive, qu'elle soit en bien ou en mal. Moi, j'ai eu la chance que ce soit, je crois, en bien. Mais je me suis gardé la possibilité d'aller plus loin dans l'émotion, c'est-à-dire de la tirer. Elle était présente, elle était écrite. Mais je suis allé plus loin en la tirant au maximum comme un élastique pour pouvoir lui extirper tout ce qu'elle avait pu me donner, mais peut-être ce dont j'étais pas totalement conscient à l'époque.
Le ventre de la déesse, sans trop dévoiler de l'histoire, qui est cette déesse ?
La déesse, c'est la montagne elle-même, c'est l'Annapurna, puisqu'en fait, quand on arrive sur un sommet comme celui-ci, les Sherpas font une cérémonie pour, je ne sais pas si on peut dire, amadouer les dieux ou la déesse. Et là, pour le coup, l'Annapurna, c'est une déesse, une déesse d'abondance. Donc on lui donne à manger, il y a toute une cérémonie qui s'appelle la puja. Et dans le ventre de la déesse, pourquoi ? Parce que bon, c'est 6 semaines à l'intérieur de ce cirque où on a vraiment l'impression d'être à l'intérieur de quelque chose. Donc, dans ce ventre-là, dans le ventre de cette montagne, mais en même temps dans le ventre de quelque chose de beaucoup plus sacré, on va dire, et qui, à un moment donné, ou à la fin du conte, à la fin de l'histoire, ouvre sur autre chose. C'est une espèce de délivrance, ou de, c'est la maïeutique de Socrate, c'est une naissance, une renaissance. Voilà pourquoi le ventre de la déesse.
Vous avez justement répondu à ma prochaine question, c'est ce que je me disais en fait, d'être devant ce panorama majestueux et puis être imprégné totalement de ces faits-là, de cette immersion totale, c'est comme si à vos yeux vous avez subi une renaissance à ce niveau-là, peut-être spirituelle.
Oui, totalement, oui. Quand on part là-bas, surtout quelqu'un comme moi qui n'était absolument pas prédestiné pour rejoindre des contrées pareilles, je ne suis pas alpiniste à la base, même si j'aime la montagne, même si j'en ai fait, quand on part, on ne sait pas du tout comment on va réagir par rapport à l'immensité du lieu, par rapport à l'éloignement, bien évidemment, le manque des proches, l'altitude. Tout ça fait que ça fait un petit peu peur. En même temps, c'est une aventure à vivre, bien évidemment, avec toute la chance que je mesure aujourd'hui d'avoir pu vivre cette aventure-là. Mais à la base, on ne sait pas. Donc quand on y est confronté, petit à petit, bon, on s'élève. Quand on y est confronté au bout de tout ce temps, on découvre des choses, on découvre beaucoup sur soi. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a vraiment des lieux qui permettent de, non seulement de se découvrir, mais peut-être de devenir qui on est. Et ça, c'est encore plus intéressant.
C'est ce qui fait le cheminement d'une vie aussi. Alors, c'est un roman, certes, mais est-ce qu'il y a aussi de la poésie, je m'entends? C'est-à-dire, vous décrivez probablement dans ce roman beaucoup de détails quant à la géologie, quant à la géographie. Est-ce qu'il est difficile de déterminer ce qu'est un ouvrage? Est-ce un mélange de roman, de poésie? Ou vous êtes encore dans un point d'interrogation pour le définir?
Non, moi je crois que c'est un mélange de tout ça. On le voit, enfin, pour ceux qui liront le roman, la littérature est très très présente dans le livre, tout simplement parce que quand on part dans des endroits comme ça, on a du temps de libre, si j'ose dire. Donc il faut amener de quoi s'occuper. Alors c'est la musique et c'est la lecture. Et la lecture, elle est entre guillemets savamment choisie. Et c'est un ensemble de choses qui vont permettre sur un moment délicat de lire ceci plutôt que cela. Et ainsi de suite. Et je crois que l'écriture, elle est allée au même rythme que ce que j'ai pu lire et que ce que j'ai pu voir. Et effectivement, je pense qu'elle est par endroits empreinte de poésie, tout simplement parce que le lieu le réclame et le demande. Quand on est face à ces montagnes, face à cette beauté, forcément qu'on est plus près de quelque chose, alors je sais pas quoi, hein. Là je m'aventurerai pas sur ce plan-là, mais en fait on est déjà au plus près de soi, et quand on est au plus près de soi, je crois vraiment que la poésie, la philosophie, mais la poésie peut-être encore plus, permet d'aller au plus proche de soi, donc j'espère effectivement que ce livre est empreint de poésie.
On a coutume de dire que les montagnes ne se croisent pratiquement pas, quoique, là on va faire le lien, on va les croiser, les montagnes, car vous êtes parmi les invités de la Cinémathèque d'images de montagne pour ces huitièmes rencontres. Nous avons reçu Gilles Charansol il y a quelques jours de cela, il vous a cité parmi les invités, où vous présenterez eh bien, ce roman Dans le ventre de la déesse. Comment ça va se passer?
Dans un premier temps, on s'était rencontré il y a un petit moment de ça avec Gilles, et je lui avais parlé de ce roman qui était en cours. Et puis, il y a à peu près 2 mois de ça, il m'a contacté avec Didier Minelli, qui lui s'occupe des rencontres de montagne, mais à Grenoble. Et ils m'ont demandé, dans le cadre des 10 ans de la disparition de Jean-Christophe, si je pouvais leur proposer une exposition photo. Donc il y aura une exposition photo durant ces rencontres, à la fois à Gap et à Grenoble, et en même temps donc il y aura la présentation et une signature du livre. À Gap, ça sera le jeudi soir et le samedi soir, et à Grenoble le vendredi soir.
Et comment vous allez vous déployer par la suite pour peut-être faire des conférences, pour présenter l'ouvrage ou faire des rencontres littéraires prochainement? Et quand est-ce qu'il sera disponible chez nos libraires les plus proches?
Alors, chez les libraires, il y a déjà quelques libraires qui l'ont, mais le lancement est véritablement programmé à partir des rencontres. Donc, pendant les rencontres avec la librairie au coin des Maupassants, il y aura cette première signature. Ensuite, moi, je ferai une signature. Alors, c'est le samedi 10 décembre. Le matin, je ferai une signature chez Davanier. L'après-midi, une rencontre avec les gens qui auront envie de venir. Il est question aussi de faire une lecture au cours du mois de janvier à la librairie au coin des Maupassants. Et pour l'heure, je ne sais pas encore à d'autres endroits, à Grenoble de sûr aussi. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Voilà.
On se tiendra au courant de votre actualité sur votre page Facebook qui est mis en ligne et puis agrémentée bien sûr de vos activités. Est-ce que vous êtes le genre d'auteur qui travaille déjà à peine un ouvrage né, on va dire, sur notre projet. Est-ce que vous avez déjà ce cheminement-là ou vous avez plutôt un temps de pause, de maturation pour retrouver l'inspiration?
Non, il y a un roman qui est déjà écrit en partie. Il y a un autre écrit qui est en train de se faire aussi. Et là aussi, il y a une idée derrière. Donc, à partir du moment où il y a l'idée, il faut commencer à mettre sur le papier pour pouvoir ensuite, on va dire, déblayer et puis commencer à faire quelque chose. Avant la fin de l'année, peut-être que c'est bien de le dire aussi, je sors le début d'une collection de livres photos. Alors là, ça sera uniquement photo avec une introduction. Donc les deux premiers seront qui sortent en même temps, donc aux alentours du 10 décembre, quelque chose comme ça. Il y en a un qui est sur les Hautes-Alpes, mais alors les Hautes-Alpes, comme on les a jamais vus, c'est un noir et blanc déjà. Livre en noir et blanc, format carré. Qui n'est pas du tout axé sur les grands sites, c'est pas du tout de la photo d'illustration, mais bien plutôt l'idée d'essayer de faire ressortir ce qu'est l'essence des Hautes-Alpes. Qu'est-ce qui fait que les Hautes-Alpes sont les Hautes-Alpes et pas autre chose. Donc ça, c'est le premier. Et un deuxième, qui est un livre, un aboutissement, on va dire, d'un travail d'un an que j'ai fait avec le vigneron Yann de Agostini du domaine du Petit Oud, que j'ai suivi pendant un an dans tout son travail, et donc que je mets en livre.
Est-ce que vous sentez l'âme écologiste quand justement vous déplacez, vous vous déployez avec... votre troisième œil, qui est l'objectif de l'appareil photo, quand vous êtes probablement émerveillé par ce que nous offre notre secteur, les Hautes-Alpes, et puis bien entendu d'autres secteurs de la Terre qui sont majestueux.
Je peux pas dire autre chose, bien évidemment. C'est la montagne, la nature, c'est ce qui m'a fait devenir ce que je suis devenu, on va dire, au moins en grande partie. C'est quelque chose dont j'ai besoin. C'est un lieu qui permet effectivement de se ressourcer, mais de faire le point. Et on n'a pas envie, évidemment, quand on est au milieu de la Napurna, de voir un jour une route passer au milieu, comme au milieu du cirque de Mafat à La Réunion, comme il avait été question à un moment donné de faire une route, alors que c'est tellement extraordinaire de pouvoir continuer à y aller à pied. Alors je ne sais pas si je suis un écologiste pur et dur, mais en tout cas, la nature me touche. Et j'aimerais qu'on la préserve au maximum, c'est sûr.
Et sur ces mots, eh bien, nous achevons notre rencontre avec Gérald Lucas dans Le ventre de la déesse. C'est un roman chez Perso Édition. Voilà, on se retrouvera prochainement pour le nouveau bébé, Gérald. Et d'ici là, eh bien, on se croisera probablement lors des huitièmes déjà rencontres de la Cinémathèque de Montagne. À bientôt, Gérald.
À bientôt et merci.